Bonjour, bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 146. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Hey, ça fait full du bien de revenir au podcast cette semaine parce que Sophie, on l'aime bien, mais Sophie, c'est pas moi, puis là, je suis là. Mais non, je vous niaise. C'était full le fun, en fait. C'était le fun d'avoir une voix féminine au podcast. Pour vrai, on devrait inviter plus souvent nos amis de la gente féminine. Ça fait du bien et ça rajoute un nouveau point de vue. Mais là, I'm back, je suis là et plein d'énergie et renouvelé et ressourcé pour vous, pour le plaisir des auditeurs. Voilà.
Quelle intro!
Ah, super, moi, parce que...
Intro, mon gars, là,
on fait pas ça à moitié, là.
Non.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu viens de finir le tournage de ton deuxième long-métrage.
Oui. Et premier long-métrage fait un peu selon plus les règles de l'art, entre très gros guillemets, parce que,
si
vous savez pas, moi, dès que j'ai fini l'université, je m'étais embarqué dans un projet là, complètement cow-boy, une espèce d'alliage docu-fiction. Au début, je me plaisais à dire que c'était plus fiction que docu. Maintenant, quand avec le recul, c'est plutôt 75-25 et 75 étant documentaire. Mais bon, au final, je pense que c'est tout cas... C'est un hybride un peu curieux, puis c'est un film en fait qu'on n'a pas pu vraiment exploiter, quote unquote, parce que justement, on a tourné dans des endroits où il y avait de la musique, on n'a pas les droits de la musique. En tout cas, pour plusieurs raisons, il y a plein d'affaires qui font en sorte que ce film-là n'est pas commercialement exploitable. Et c'est un film qui a quand même aussi remué beaucoup de trucs de ma vie privée. Là, on parle bien sûr de la génération porn, pour ceux qui l'auraient vu au FNC quand il a joué il y a 2 ans. Et là, dans le fond, là, c'est ça, on a eu des sous de Téléfilm Canada, du Conseil des arts du Québec, et puis là, on s'est lancé dans un film de fiction, cette fois-ci, La Bonne Vieille Fiction, et ça s'intitule Les Faux Tatouages. Et effectivement, oui, j'ai rappé le film il y a genre 3 jours, donc, yeah man, ça y est.
Malade.
Félicitations.
Ouais.
Maintenant, tu t'embarques pour quelques mois de montage.
Ouais, c'est ça. Puis le film, en fait, c'est drôle parce que j'ai eu le luxe, tu sais, dans mon hyperactivité proverbiale, j'ai eu le luxe de synchroniser tous les trucs un peu au fur et à mesure et même quasiment d'assembler des séquences pendant qu'on tournait. Donc ça me permettait de quasiment faire les reshoots pendant le shoot. Et en fait, ça me permettait aussi de savoir bien avec quel bite j'avais entre les mains. Puis non, mais tout ça pour dire que en fait le montage va avancer, je crois, somme toute, assez rapidement. Donc moi, je présume que pour Noël, en fait, j'ai pas mal mon cut. Okay. Donc si tout va bien, là, évidemment, on touche du bois. Fait que, mais à suivre, là, j'en parlerai pas trop. Là. Je vais me garder des surprises pour quand que le film sera frais, puis frais pour une potentielle sortie en festival et en salle. Donc on en reparlera certainement.
Donc on devrait recevoir les faux tatouages quelque part en 2017.
Ouais, j'ai l'impression. C'est ça.
Pour rester assez vague, là.
Ouais, non, exactement. On aimerait une sortie en salle en genre de octobre-novembre 2017, mais comme je dis là, ça c'est vraiment, ne me citez pas là-dessus, là. C'est complètement des paramètres qui sont pas contrôlés et contrôlables à ce stade-ci du développement du film, mais c'est ce qu'on vise du moins. Donc,
genre de auditeurs, écrivez au cinéma pour... avoir les faux tatouages en
ouais, ouais, c'est ça, c'est là.
Directement, le tweetez-les, puis écœurez-les.
Ouais. Guzzo qui lit tous ses courriels, il est comme, c'est quoi ça, ce film-là, les faux ouais, tatouages?
Yeah. Fait que voilà, on en reparlera certainement.
Super, donc le dernier épisode, on parlait longuement du FCVQ.
Yeah.
Et cette semaine, pour ne pas changer les bonnes habitudes, on va parler cette fois-ci du Festival du Nouveau Cinéma.
Yeah,
parce que c'est dans quelques jours à peine cette édition et la programmation est annoncée au complet sur le site web. Déjà, vite fait, une petite annonce. Le samedi 8 octobre à 17h, il y a une classe de maître avec Nadav Lapid, cinéaste israélien qui a fait 2 longs-métrages, Le policier et l'institutrice, ainsi que plusieurs courts-métrages. Il va d'ailleurs y présenter au festival son nouveau film, un moyen-métrage de 40 minutes. Et donc, c'est moi qui animerai la classe de maître. On m'a demandé si ça me tentait de le faire. Et puis, bien sûr, c'est toujours très plaisant, ce genre de truc. Donc, merci au FNC et on se rencontre là-bas pour ceux que ça intéresse. Ensuite, j'aimerais ça, les gars, qu'on parle ça, de la programmation un peu, tu sais, parce que le FNC, puis j'ai l'impression que cette année aussi, j'ai moins eu la chance d'aller voir des films. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de films qui m'ont marqué cette année, notamment au niveau québécois. Puis on voit qu'il y a beaucoup de films québécois au FNC. C'est vraiment rendu comme le rendez-vous annuel pour un peu savourer les dernières offrandes. Puis plusieurs films aussi qu'on va pouvoir voir au FNC qui prendront l'affiche seulement en 2017. Donc c'est toujours intéressant d'avoir comme une espèce d'avantage, entre guillemets, sur les sorties régulières. Donc voilà, un peu dans le désordre. J'aimerais ça qu'on chacun on dise un peu ce qu'on attend, ce qu'on a hâte. Ça a été quoi comme nos premières grosses réactions quand on a vu la programmation? Peut-être toi, Pascal, tu veux commencer. C'est quoi tes gros morceaux?
Ouais, ben je vais plonger dans le québécois, mais plus tard, en fait, on va y aller, je pense. On peut pas vraiment passer sous silence là, les suspects de convenance, un peu, les gros films de Cannes qui finalement se ramassent enfin. Sur les salles, sur les écrans à Montréal pendant le FNC. Je pense que chaque année, le FNC remplit ce mandat-là, tu sais, d'amener des œuvres internationales là, de renom, des films qu'on attend, qu'on voit les trailers passer depuis Cannes, puis que là, bon, on est tout excité. Donc, tu sais, je vais en passer en rafale. Je veux dire, c'est pas nécessairement des titres originaux, là, tu sais, mais en même temps, c'est des films qui, moi, me font complètement saliver. Ben, tu sais, notamment le American Honey d'Andrea Arnold. Prix du jury à Cannes cette année. Puis un film, tu sais, André Arnold, elle a vraiment une démarche super intéressante dans son travail avec les non-acteurs. Ça a vraiment l'air d'être un vent de fraîcheur. Un film dont on dit vraiment un voyage, en même temps un peu décousu, mais très, très, très hyper sensible et sensoriel. Donc, juste ça sur papier, c'est sûr que c'est très, très, très intéressant. Il y a, mon Dieu, ben, tu sais, comme mettons le Gimme Danger, le documentaire de Jarmusch. Je sais que vous avez parlé du Jarmusch, là, notamment dans le dernier podcast.
Ben, Sophie a parlé de Gimme Danger, puis elle a dit qu'elle a pas trippé, là, ça faisait très. Elle dit que c'était très convenu pour du Jarmusch, là.
Ouais, c'est ça. Ben oui, mais en même temps, ça reste un des titres quand même. Tu regardes la programmation, c'est un des titres qui sautent d'emblée aux yeux. Tu sais, The Handmaiden de Park Chan-wook, ça aussi, je... Mais Park Chan-wook, toi, Rémi, tu le connais pas, là, t'as pas vu Old Boy. Fait que...
mais... j'ai vu d'autres affaires en plus de Park Chan-wook, mais j'ai pas vu Old Boy, ça, c'est le... Classique,
bon, c'est pas comme si c'était son film incontournable.
Ouais, c'est ça. Puis aussi, un film qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est Tony Erdmann de Maren Adé, un film qui a eu grand des critiques dithyrambiques. On parlait finalement d'un des films les plus consensuels à Cannes cette année avec probablement Patterson de Jarmusch. Donc Tony Erdmann qui va enfin avoir une projection. Donc ça, c'est sûr que c'est super intéressant. Sinon, un autre cinéaste majeur qui nous sort un film qui a l'air très intéressant, c'est Pablo Larraín avec son film sur Neruda. Donc ça, c'est sûr que le film s'appelle d'ailleurs Neruda, tout simplement. Tu sais, ça, c'est un autre gros suspect, là, je pense, qui est assez incontournable. Bon, en tout cas, je vous cède la parole. Il y en a d'autres, évidemment, il y en a d'autres. Mais tu sais, disons, les grands reflux des festivals mondiaux là, qui sortent au FNC, c'est sûr qu'on peut pas les passer sous silence.
Oui, toi, Rémi?
My God, j'ai essayé d'en highlighter plusieurs. Là. Moi, il y a beaucoup de classiques qui ont attiré mon regard. Il en a manqué un à Québec, là, mais Gates of Heaven, que j'aimerais vraiment voir une fois dans ma vie. Puis je pense que la meilleure façon de le voir, c'est... qu'est-ce que tu dis, Paul?
C'est Heaven's Gate, en fait.
Gates of Heaven, c'est un documentaire sur les cimetières de
Maurice. C'est ça. Mais là, je l'ai vu en plus, ce film-là. Mais j'ai pas vu Heaven's Gate. Heaven's Gate qui est là, bon... puis je pense que c'est la meilleure occasion de le voir. C'est pas sur mon laptop couché dans mon lit ou sur mon iPad. Je pense que le voir au Festival du Nouveau Cinéma, ça va être une belle occasion. Là.
Ouais, mais et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de souligner que ça fait partie d'une nouvelle section du FNC. On dirait qu'il y a vraiment eu comme une espèce de vent de renouveau pour cette édition. Donc ça, ce film-là fait partie de la section Histoire du cinéma. Titre emprunté à Godard, évidemment. Et c'est une des nouvelles sections, mais il y en a quelques nouvelles sections, notamment aussi c'est les alchimistes, les nouveaux alchimistes. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que ça permet d'avoir des sections plus petites et peut-être c'est plus facile à un peu naviguer dans la programmation parce que quand tu as plusieurs centaines de films, des fois, c'est pas évident. Un peu comme à Fantasia, tu sais. Puis, ils ont ajouté aussi des nouveaux programmateurs. Donc, je trouve ça toujours bien. Donc, tu peux continuer, Rémi.
Ouais, juste à travers les classiques, en fait, il y a aussi... l'aurore, en fait, de Murnau, là,
Sunrise, l'espèce
de film qui avait été pas bâché, là, mais qui avait été vraiment snobé à l'époque, là, qui est le plus grand classique, là. Donc c'est ça. Puis il y a aussi des trucs vraiment weird qui ont plus sa place à Fantasia, mais je suis comme content de voir ça. Il y a Big Trouble in Little China qui est projeté. Puis Fantasia aussi, c'est vraiment drôle, en tout cas. Je sais pas si je vais aller les voir ceux-là, vu que je les ai vus comme plusieurs fois déjà, mais les voir sur grand écran, c'est quand même une belle expérience, là. Puis sinon, dans la lignée Cannes, ben, il y a la Tortue Rouge, je pense, qui est un incontournable,
là. Ouais,
ouais, ça,
absolument.
J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ceux-là.
Absolument.
Ouais. Ben, il y en a plein d'autres, là, mais je pense que je vais laisser la parole à Paul, là.
Ouais, ben écoutez, c'est ça, c'est le FNC, c'est ça, c'est comme un trop-plein de belles choses, tu sais. Puis là, en plus, cette année, c'est la première année que j'ai comme un emploi de jour, là, de bureau de 9 à 5. Donc, ça a été vraiment dommage de rater autant de trucs intéressants. Mais bon, il y a deux lave-dillages,
ouais.
Tu sais, juste ça, 12 heures ouais. de cinéma, donc pour ceux que ça intéresse. Anti-porno de Sion Sono,
oui.
Ben ça, c'est
ah,
toujours
ouais,
intéressant.
Et tu sais, ce qui m'a surpris avec ça, quand j'ai juste regardé un peu, lu le synopsis, fait un peu mes recherches sur ce film-là, la première fois qui m'a accroché, c'est le running time très succinct, très court. C'est 78 minutes seulement. Donc, je dis ça parce que Sion Sono, d'habitude, il est capable, et c'est toujours des tours de force, mais il est capable de soutenir des visions complètement folles sur des films. Souvent, tu regardes 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures et quart, jusqu'à son classique, le Love Exposure, qui, ben là, on parle d'un running time de 4 heures, mais juste pour dire que c'est intéressant, finalement, un genre de. Un petit quickie Sion Sono, là. J'ai bien hâte de voir. Qu'est-ce que
en
ça va donner?
Tac, c'était 1 heure et demie, là, c'était pas vraiment plus long que
tac,
ça.
Tac, c'était court aussi, c'est vrai, ça m'avait. Mais tu sais, comme je pense à ouais, genre ouais. Guilty of Romance, qui était super, mais tu sais, qui méritait pas nécessairement de durer 2 heures et 20, puis finalement, ça dure 2 heures et 20, et ça fonctionne, ça, c'est complètement. C'est hallucinant que ça réussisse à fonctionner, mais en tout cas, j'ai toujours senti qu'il y avait une prédilection pour des films qui prenaient un certain temps, là, qui se plaçaient sur une certaine durée. Peut-être qu'on est dans une phase de carrière où il y a envie finalement de proposer des trucs encore plus brefs, tu sais, bon.
Ouais. Ben, Sion Sono, je pense que le cinéaste aussi qui te surprend toujours, ouais. là, tu penses qu'il rentre dans une phase puis que là, finalement, il te propose quelque chose de complètement différent.
Exact.
Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un incontournable,
absolument.
Selon moi. D'ailleurs, ça va faire un bon double feature avec le documentaire de Sion Sono.
Ouais.
Consacré sur le cinéaste. Peut-être que ça va nous donner un peu plus aussi une espèce de plongée dans sa méthode de travail. Donc, ça, c'est toujours intéressant.
Ouais.
Parmi les incontournables documentaires de Wang Bing.
Oui, j'allais le mentionner. Ouais. Ouais, Bitter Money en anglais. Ça a l'air. Tu sais, Wang Bing, là, si c'est pas le documentariste le plus urgent, essentiel. Et c'est drôle en plus parce que j'ai pas vu des tonnes de ses films, vraiment pas.
Moi, j'ai vu aucun de ses films, donc c'est vraiment comme une espèce de devoir que
ouais.
je me donne. D'essayer d'en voir un cette année.
Qu'est-ce qu'il fait d'autre en fait? Moi je connais pas du tout. Là.
À l'Ouest des rails, c'est comme un documentaire de 9 heures. Puis c'est, il parle beaucoup de la Chine, l'évolution de la société, puis comment que le capitalisme dans la Chine moderne.
Non,
tout
exactement,
comme ça.
Exactement.
Il y a un nouveau documentaire presque à chaque année au FNC de lui. C'était Sister, je pense, l'année passée, quelque chose comme ça. Donc, puis c'est vraiment considéré comme l'un des plus importants documentaristes au monde en ce moment. Là.
Puis aussi un autre qui n'a pas peur aussi de justement de d'offrir des films imposants, ne serait-ce que dans leur durée. Tu sais, comme là, tu regardes le running time de ça, là, de Bitter Money, puis c'est 2 heures et demie finalement. Mais 2 heures et demie selon les standards de Wang Bing, t'es comme ah, tu sais, c'est une quickie aussi. Donc, parce que justement, tu sais, à l'Ouest des rails, c'est probablement la pièce maîtresse là, dans son œuvre, puis c'est ça, c'est 9 heures de. Mais ouais, non. Moi, je suis content, bref, que tu l'aies souligné. Là, je pense que ça aussi, on s'en fait peut-être même un devoir là, d'aller le voir.
Ouais. Ce qui est pour moi pas du tout un devoir, mais vraiment un plaisir, c'est un nouveau Aung San Suu. Je vais aller voir tout ce qu'il fait, peu importe. C'est toujours. C'est pas toujours des films que je trouve comme excellent ou comme exceptionnel, mais la rigueur dans son travail est assez hallucinante. Puis tu sens le plaisir aussi à faire du cinéma de sa part. Donc, ça donne vraiment le goût d'y aller, d'aller voir ses films un après l'autre.
Mm-hmm.
Contrairement à certains cinéastes qui commencent vraiment à battre de l'aile. Sinon, dans les films québécois, il y en a plein qu'on attend. Il y a le film de Sophie Goyette, Minuit feront écho. Ça, on a très hâte de voir ça. Sophie Goyette qui avait proposé des courts-métrages très intéressants. Il y a Prank qui était à Venise. Il y a Maudite Poutine. Il y a tellement de films québécois. Il y a le nouveau film d'Olivier Godin.
Ouais.
Bizarre de la parole.
Mathieu Denis et Simon Lavoie aussi, ceux qui font les révolutions, trois petits points.
Qui a gagné le prix du meilleur long-métrage canadien à TIFF.
183 minutes aussi. Hein.
Toi, Pascal, t'es vraiment stické sur les durées.
Non, mais oui, un peu. C'est parce que pour l'instant, c'est un catalogue, c'est un magasin de bonbons. C'est comme, pour moi, la durée d'un film, c'est un peu comme, tu sais, t'es à l'épicerie puis tu regardes les trucs nutritionnels, là. Tu regardes un peu le nombre de calories là, qu'il y a dans ton truc. Je sais pas, c'est important quand même. Quand tu prévois de t'asseoir pour 3 heures, ça teinte un peu ton... Je sais pas, ton état d'esprit. C'est vrai que là, j'ai un petit peu trop stické dessus depuis le début de l'épisode. Je suis désolé. mais ça fait quand même partie de l'expérience, je crois, et des attentes. 3 heures. Bordel. C'est un événement.
Non, c'est correct.
On en revient, là.
En tout cas.
Non, j'ai hâte de voir ça aussi. Ça, c'est,
mais on parle d'un film qui a énormément divisé, hein, au final. On parle d'un film qui, oui, justement, d'un côté, s'est mérité les grands éloges à TIFF, mais un film qui a vidé sa salle aussi. Là.
Ah oui,
j'ai eu les échos un peu de la projection. Puis oui, apparemment qu'entre le début et la fin, on avait, bon, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, j'ai pas de pourcentage savant, mais quasiment la moitié des gens qui étaient présents qui ont quitté. Là. Au dire de, en tout cas, je ne sais pas si c'est une légende urbaine puis que c'est exagéré, mais je sais qu'il y a eu énormément de gens qui ne se sont pas rendus jusqu'au bout du parcours. Mais encore une fois, c'est des histoires, ça contribue à l'aura, au mythe derrière le film. Donc, ne serait-ce que pour ça, faut aller le voir.
Puis les films qui divisent, des fois, ça peut être, ça devient nos préférés, finalement.
Absolument.
Sinon, il y a également Désert qu'on a vu, qu'on va discuter bientôt, de Charles-André Coderre et Yann-Manuel Hernandez. Film expérimental, donc qui ouvre la section d'ailleurs Les Nouveaux Alchimistes. Donc, très bel honneur pour ça. Parmi les autres films de la sélection, il y en a plein. Faut vraiment se faire une. Tu sais, faut aller voir sur le site. Puis moi, je vais vraiment y aller au jour le jour selon ce que je peux aller voir. Mais j'ai vraiment hâte que ça commence, puis ça va faire du bien un peu pour notre année cinéma, un peu de... Parce que en tant que spectateur, surtout au niveau Québec, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas eu grand-chose qui m'ont marqué. Même le Xaydaran, c'est quand même une déception, je crois. Tu sais, André Forcier, bon, c'est assez quelconque. Ben, c'est correct, là, c'est bien. On a hâte de voir ça.
Toi, Rémi, tu semblais...
Évidemment, il y a plein de films québécois que j'ai pas vus.
Toi, Rémi, t'as semblé vraiment encensé, là, écarté de Laurence Côté-Collins, qui est sorti en salle, là, c'est pour ça. Je suis bien curieux, mais c'est sûr, je vais aller le voir, en fait, très prochainement aussi. Puis,
Il est au beau bien, là, fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est comme les semaines importantes, là, c'est la première semaine, là, pour qu'il puisse rester un peu, là.
Non, exact.
Ben ouais, c'est ça sort du lot, là, c'est vraiment quelque chose à voir, là. C'est sûr que... C'est pas un style qui va convenir à tout le monde, là, mais je pense que ça vaut la peine de s'aventurer dans cette contrée-là.
Parlant de contrée aussi, j'essaie de faire mon pôle puis de faire les transitions, mais c'est vraiment minable. Mais en fait, ça n'a aucun lien. Mais j'ai vu la bande-annonce aussi. J'ai revu la bande-annonce de Deux Amants, Un ours et deux amants, Two Lovers and a Bear, avant justement le Xavier Dolan, avant juste la fin du monde. Puis une bande-annonce fiche vraiment efficace. Hein? Puis Kim Nguyen, pour vrai, si c'est pas rendu quasiment gage de qualité, je sais, tu sais. Donc, et c'est finalement le film d'ouverture, carrément du FNC. Je pense pas qu'on l'avait dit, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais ça, c'est un autre des films qui a l'air très, très, très prometteur au niveau Québec, là, ne serait-ce. Donc, ouais. Et le film de clôture, tant qu'à y être, on parle du nouvelle offrande de Zacharias Kunuk, là, lui qui avait donné à Tanarouat. Et le titre, c'est Maliglutite. Si je le prononce bien, c'est ça le titre.
Ouais. Donc, nous avons eu la chance de voir Désert, comme je le disais il y a quelques instants. Premier long-métrage, je crois, de Charles-André Coderre et Yann-Manuel Hernandez. Yann-Manuel Hernandez, qui signe également la photo, qui avait fait le court-métrage Luciole aussi il y a quelques années. Avec une bande-annonce, une bande sonore, il faut le souligner, de Radwan Moumnet. Trame sonore qui est vraiment cruciale au film. Puis d'ailleurs, j'ai lu une entrevue qui disait que la trame sonore s'est construite en même temps que le film. Donc, c'est pas comme on finit le montage, puis bon, ensuite on compose, puis on lègue ça au compositeur, puis elle vient que pourra. Ça a vraiment été un processus symbiotique, si on veut.
Ah, ça, j'étais pas au courant. Justement, la musique, je trouve que c'est un des trucs qui est vraiment fort dans le film, là.
Donc, le synopsis, en fait, c'est vraiment simple parce que c'est un film qui est, t'sais, qui est à peine narratif, si on veut. Moi, je dirais que c'est un homme et une fille dans le désert, un homme et une femme dans le désert. C'est à peu près vraiment ça qui se passe.
Ouais, c'est ça. Un homme qui, pour se perdre et se retrouver, là, tu sais, décide un peu de façon un peu. Il romantise un peu cette espèce d'escapade-là dans le désert, cet égarement-là. Puis, tu sais, le désert aussi, un symbolique. Le titre, d'ailleurs, désert au pluriel, je pense qu'on peut parler d'un désert intérieur doublé, tu sais, du désert physique au sens propre, au sens littéral. Donc oui, effectivement, c'est juste finalement un égarement là d'un homme et sa relation très très lousse avec finalement deux femmes. Il y a Elisabeth Locca et voyons l'autre actrice Diamond, son nom de famille. Ah désolé désolé désolé.
Véronique?
Véronique Diamond,
Victoria,
Victoria
Victoria
Diamond,
Diamond.
Victoria Diamond, oui, désolé. Donc, mais c'est pas un film auquel on peut s'accrocher d'une façon très terre à terre. Je pense qu'il faut un peu s'y abandonner. Excuse-moi, ouais, j'ai un peu coupé ton élan d'ailleurs là. Y avait-il
Non, mais
d'autres choses à dire
vas-y.
sur le synopsis?
Non, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est plutôt une exploration formelle, c'est beaucoup un travail sur l'image et le
Exact.
son, film expérimental qui se rapproche beaucoup d'une certaine avant-garde. Toi, Pascal, qu'est-ce que tu en as pensé du film?
Ben ouais, avant de plonger là, plus tu sais, dans les critiques du film, moi je te dis qu'il y a. Parlons un peu de l'enrobage, parlons un peu du traitement, tu sais, comme tu dis, son et image. J'ai trouvé que c'est un film qui faisait du bien, ne serait-ce que. Tu sais, c'est un film de 2016, mais c'est un film extrêmement hors temps. Même que moi, si j'ai des comparatifs à faire, ce serait avec t'sais, les genres de Zabriskie Point ou, je sais pas, Punishment Park dans peut-être son traitement du désert. Ou d'autres. Puis t'sais, là, on parle de deux films du début des années 70. Je pense pas que c'est un hasard. Il y a un genre d'énergie narrative un peu hippie, là, t'sais, fin 60, début 70. Le travail, il faut quand même le dire, le film a été tourné en pellicule et ça se sent, ça paraît, et ça sert
Ouais,
aussi
ça c'est
l'ambiance.
vraiment cool, hein.
C'est
Ça c'est
vraiment
admirable,
beau.
là, mais on en parlait dans un autre podcast que tu sais, c'est pas avec le Mumblecore, là, ce podcast désastreux où on était capable d'expliquer ce que c'était, là, mais qu'il y a des cinéastes qui
C'est-tu
investissent.
désastreux? Je sais pas.
Le budget qu'ils investissent, c'est justement pour la pellicule parce que c'est un plus, puis c'est pas un problème, mais tu peux te le permettre si tu gères ton budget en
Exact.
conséquence, là.
Ben, tu sais, c'est ça, les
Mais
gars.
dans ce cas-là,
Ouais, vas-y, vas-y.
juste pour souligner ça, dans la même entrevue que j'ai lue sur. C'est où que j'ai lu cette entrevue-là? Je crois que c'est sur Extra
Ouais, avec
Beurre.
Kevin Laforêt, ils ont fait une entrevue, il me semble.
Ouais, et il expliquait que le choix de tourner en 16 mm, c'était que c'était beaucoup plus simple, en fait, dans des conditions désertiques qui sont très chaudes. Et aussi, c'est que tu n'as pas tout le souci de devoir à chaque jour transférer tes données, avoir accès à l'électricité, donc pour pouvoir avoir tes disques durs, puis recharger les caméras. Il y avait toute une question, ça, pratico-pratique, là, de vraiment comme. C'est plus simple comme ça, on n'a pas besoin d'avoir un assistant qui s'occupe, t'sais, du data. C'est une fois qu'on revient à Montréal que là, on regarde nos rushs, puis on voit qu'est-ce qui se passe
Ouais.
avec tout ça.
C'est un gros saut
Parce
dans
que
le vide,
c'est.
mais en même temps, c'est que je trouve que ça double un peu le fond du film au final. Donc, tu sais, je pense pas que c'est un film que tu peux juste effectivement là, tout transférer, tout backupper, puis réagir en fonction de ce qu'on a filmé. Puis je pense qu'il y a une exploration, il y a un égarement aussi au niveau de l'équipe. Et même jusqu'au niveau scénaristique, tu sais, ça se ressent que le scénario est un peu un canevas, n'est pas du tout. En tout cas, ben, en même temps, je veux pas prêter d'intention, là, j'ai pas lu le scénario, je peux pas le dire, mais j'ai pas mal. Un film comme ça doit être inspiré de ces lieux, des gens qu'on rencontre,
Ben surtout que c'est les réalisateurs qui signent le scénario,
Exact.
qui signent la direction
Et le
photo.
montage,
Donc,
au final aussi, il y a comme toute
c'est ça.
l'écriture, ouais.
Donc l'écriture est multiforme. C'est pas comme on a pris un texte d'un scénariste, on l'adapte.
Exact.
C'est tout va ensemble. En fait, tout se fait en même temps.
Oui, exact, exact, exact. Sinon, après, bon, il y aurait peut-être plus à dire sur comment ils ont filmé le film. Est-ce qu'on plonge un peu dans nos appréciations? Ben, tiens, Rémi.
C'est moi qui plonge en premier. Ben, écoute, moi j'ai trouvé ça. Ben, je trouvais ça admirable la façon que ça a été fait. Je trouve qu'il y a des failles, justement, au niveau scénaristique. Là. Moi, ça a été peut-être le bout qui m'a accroché un peu parce que je sens un peu le côté improvisé, là, le côté. Ben, le scénario qui rentre peut-être sur je vais pas te prêter d'intention là, mais qui rentre peut-être sur une page ou quelques-unes là. J'ai pas été convaincu par ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, je savais plus trop sur quoi m'accrocher dans le film. Fait que je pense que c'était la façon de le prendre, c'est vraiment tu t'assois puis tu te laisses embarquer dans l'univers qu'ils ont créé. Puis
Absolument.
t'essaies d'embarquer dans le trip esthétique, visuel. Parce que j'ai pas trop saisi, en fait, ce qui se passait entre les personnages. Shit, je veux pas me lancer en premier, j'aime pas
Alors, mais ricochet vers Paul d'abord, ricochet vers Paul d'abord, et pas de stress.
Ben, moi, écoute, ça a été un gros coup de cœur, ce film-là.
Ah
C'est un film qui
ouais.
fait du bien dans notre cinématographie. C'est un film qui sera pas pour tout le monde, mais t'sais, l'art, c'est pas pour tout le monde. Puis certaines œuvres sont pas pour tout le monde. Puis ce film-là, pour moi, c'est vraiment la définition du film de minuit, là, comme le film culte un peu. La trame sonore est hallucinante,
Ouais,
là, comme
ça, je te
c'est
le donne.
vraiment original. Puis c'est le genre de trame sonore que je suis pas sûr que l'écouter seul, j'apprécierais autant, mais amalgamé avec les images puis la façon que ça a été tourné, c'est un vrai bonbon, un vrai film de cinéma. On se laisse vraiment embarquer dans le film. Puis moi, dès comme le générique d'introduction, qui est très original, j'étais prêt à comme vivre ce voyage-là. Voyage sans destination, hein, c'est vraiment, tu l'as dit tantôt, c'est un peu. Les personnages vont dans le désert, mais on ne sait même pas vraiment c'est quel désert, puis c'est où. Puis tu sais, il y a comme plusieurs déserts aussi, puis il y a plusieurs façons de filmer le
En
désert.
même temps, il y a Los Angeles qui
C'est
est là. Il n'y a
pas.
pas Los Angeles, il y a
Las
Las
Vegas,
Vegas qui est là. Fait que tu te doutes que c'est comme autour de Las Vegas, là.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'sais, le désert, il est
Il est
tellement.
métaphorique, là, aussi.
Ouais, il est métaphorique, puis il y a tellement de paysages différents. T'sais, t'as la dune de sable, mais t'as aussi t'sais, des places, c'est plutôt comme des pierres. T'as des endroits où il y a plus de végétation. Puis tu sens vraiment qu'ils sont promenés, et il n'y a pas nécessairement au niveau scénaristique, puis au niveau du montage, il n'y a pas d'unité de temps, puis de progression tant que ça. C'est vraiment, tu passes de l'un à l'autre sans vraiment savoir où tu te trouves dans la temporalité. T'sais, tu sens une certaine progression chronologique globale, mais il y a des scènes que tu n'as aucune idée. Si c'est un flashback, ça vient de où? Il y a plein de plans qui sont pas justifiés autrement qu'on explore la lumière, puis on explore de quelle façon, mettons, t'sais, telle lampe sur tel visage ou
Ou
tel.
le foulard, à ma vie, il y a
T'sais.
un foulard au
Ouais.
vent, puis tu as juste les patterns du foulard qui flottent au vent sur
Ouais.
le
Ouais.
visage de la fille. Et c'est son introduction, d'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse, c'est avant même que voyons, Diamond, là. Pourquoi je me trompe tout le temps? Victoria Diamond?
Victoria.
Victoria.
Ouais.
C'est avant même qu'elle entre en scène d'un côté un peu plus narratif. Elle est donc introduite, tu sais, par justement la lumière qui se découpe autour de ses lèvres, autour de ses joues, autour de ses yeux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il faut pas tomber trop dans une intellectualisation. Je crois que c'est un film qui est très sensoriel. Je te coupe un peu l'herbe sous le pied. Moi, en fait, je pense que je vais être vraiment visiblement le médiateur parce que moi, il y a plein de côtés que j'ai beaucoup aimés. Il y a des côtés qui m'ont laissé qui m'ont gardé très froid, sans faire de blagues de désert et de soleil et de chaleur, là. Mais c'est le problème qu'a ce genre de film d'être un peu assis entre deux chaises. Au final, c'est que soit t'es plus vendu par les expérimentations formelles. Ou soit tu t'accroches plus à l'histoire. Dans ce cas-ci, moi, ça a été évident que mon cœur, ma tête et tout était beaucoup plus investi dans les expérimentations. Donc, le travail de photographie, le travail de musique, le travail de l'image. C'est un film très inspirant au final. C'est un film qui est fait avec peu, mais qui cache vraiment ça derrière juste des bonnes idées. Et des bonnes idées, il y en a à la tonne. Il y en a à la tonne et ça soutient l'heure et demie de film. Là où le bât blesse un peu plus pour moi, c'est justement quand le film, c'est finalement les interludes fictives carrément, parce que le film est majoritairement expérimental avec des interludes dramatiques ou presque, et ce sont ces interludes-là qui semblent très sous-développés à mon œil, à
Avec la
mon avis.
voix off, là, le...
Notamment le travail de voix off, une voix off qui n'est pas tout à fait saisie,
Une voix
faut
off
pas
qui,
non
en fait, qui
plus.
n'était pas si nécessaire, tu sais, tant qu'à y aller.
Alors, ouais.
Tant qu'à y aller à fond dans l'expérimentation, essayer de mettre une voix off pour faire passer l'histoire, je m'en serais passé puis j'aurais essayé de prendre mes guesses de mon côté de ce qui se passe. Ça
Ouais.
était très
En même
secret,
temps,
disons.
ouais, peut-être,
en même
oui.
temps, je pense que les mots qui sont entendus dans le film, il y en a très peu. agissent presque comme des notes de musique. T'sais, la voix des acteurs, c'est comme un autre instrument, finalement, parce que le scénario, on s'entend, là, je veux dire, c'est très léger, puis même les interludes scénaristiques, comme tu parles, à un moment donné, bon, il est avec son ami au bar, il se saoule, à un moment donné, il va faire de la boxe. Tu sais, ces trucs-là, même le son est camouflé par la musique. Même ça, il n'y a pas d'emphase vraiment sur ce qui se dit.
Non, ouais.
Autre que tu captes un peu l'essence des scènes. Puis tu sais, l'émotion qui est ressentie par les personnages. Mais l'important, c'est vraiment... C'est comme une grosse allégorie, finalement. Puis
oui,
c'est de voir les... Puis les acteurs sont très bons aussi. Et surtout, c'est que la caméra, puis la manière c'est filmé, puis la manière c'est monté, c'est qu'on comprend pourquoi les deux inconnus tomberaient amoureux l'un de l'autre. Souvent, pour ce genre de film-là, le problème, c'est qu'on est complètement détaché émotionnellement des personnages. Mais dans ce cas-ci, je comprenais pourquoi ils pouvaient comme tomber amoureux de la fille et vice-versa.
Et vice-versa, really? Moi, c'est drôle que tu me dises ça, parce que moi, c'est autant... Moi, ça a été un peu de façon unilatérale, ce dont tu parles.
Okay.
C'est-à-dire, je crois que lui, sa fascination envers les deux femmes allait de soi, coulait de source.
Ouais.
Hubert Proulx, c'est pas qu'il est mauvais, c'est pas qu'il est même mal casté. Il a définitivement une gueule intéressante, il a un côté très un peu rough, un peu mystérieux, qui sied bien l'univers du film. Par contre, moi, ça s'est carrément transformé en antipathie. C'est-à-dire, le personnage, pour moi, était un anti-héros, mais sans le côté vital de l'anti-héros au cinéma, qui est finalement une fascination. T'sais, pour moi, un anti-héros, ça peut être le plus beau personnage, mais fascine-moi. Genre, j'ai envie de te voir faire whatever ce que tu fais. T'es un personnage un peu trou de cul, un peu raté, un peu tough, mais si je suis fasciné par toi, il va m'entraîner dans toutes les contrées possibles, puis je vais adhérer. Moi, vois-tu, j'ai manqué cet élément-là. Puis si bien que même que lorsque les personnages féminins lui prêtent attention, tu sais, ça me semblait très, très placé, très un peu fabriqué même au final. Donc, est-ce que c'est un problème de casting? Pas nécessairement, mais... Ouais, ben, je sais pas, j'ai eu une antipathie, moi, pour Hubert.
J'ai vraiment l'impression qu'on est entre deux chaises, là. C'est comme soit soit il essaie de faire de la narration, soit on est dans l'expérimental à fond. Puis des fois, c'est trop dans l'entre-deux, en fait, dans la zone grise, où je trouve que les deux blendaient pas. C'est que je voulais être d'un bord ou de l'autre, mais on dirait que l'entre-deux, c'était vraiment un no man's land. Puis j'avais de la misère, un peu comme tu dis, à m'attacher au personnage parce que justement le côté expérimental embarquait dessus, mais même dans le côté expérimental, j'avais de la misère à embarquer parce que des fois le côté narratif, il essayait de prendre l'importance. Fait qu'on dirait que j'avais de la misère à trouver le beat dans lequel il fallait que je gobe le film, là. Moi, ça va être un peu ça le problème.
Parce que le film est plus proche d'un espèce de... quasiment un vidéoclip ou... tu sais, il y a ce côté-là très avant-garde. Tu sais, moi, je pensais notamment à Electroma de Daft Punk, filmé dans le désert.
Okay, okay.
La description du FNC parle de Jerry, de Gus Van Sant.
Ouais, peut-être, ouais.
Nicholas Winding Refn, là, genre, c'est comme... Il y a vraiment des inspirations...
J'ai pas vu ça, moi.
Oui, non, mais c'est drôle, mais tu sais, vous citez beaucoup, encore une fois, des trucs récents. Moi, tout ce qui me venait en tête, c'était quasi systématique. Tu sais, c'était plus les Easy Rider de ce monde ou les films de fin 60, début 70. Pour moi, c'était comme l'inspiration possible d'un film comme ça. En tout cas, moi, ce que ça m'a évoqué, évidemment,
c'est vraiment ça. Mais il y a des shots drive, là. Des shots, genre, toutes colorées en silhouette qui marchent au ralenti, puis des trucs comme ça, là. Pour moi, c'était très... c'était assez évident, là. Je regardais avec ma blonde, puis c'était ça qu'on voyait, là, l'éclairage vert dans le bord. C'était comme vraiment coloré, là.
On remet pas en doute du tout, par contre, l'énergie, le... Tu sais, c'est pas un film que tu visionnes puis que tu questionnes le pourquoi un tel film.
Ouais.
Comme je disais, je pense que l'égarement fait partie du processus, fait partie de l'acceptation, fait partie de l'appréciation d'une œuvre comme ça. Après, comme je vous dis, finalement, c'est très subjectif. Moi, je te dis, j'ai trouvé l'impénétrabilité, l'opacité du personnage principal m'a un peu brimé. J'aurais aimé ça vouloir m'égarer avec quelqu'un d'autre, peut-être. T'sais. Par contre, l'égarement en tant que tel, la façon comment c'est cadré, la façon comment c'est filmé, le son, l'image, la symbiose, la verve expérimentale, tout ça, pour moi, j'ai acheté, j'ai adoré. Donc, donc vois-tu, ce serait ça. Puis, Quoi, comment dire? Non, mais au final, en tout cas, juste pour finir vraiment sur un point, c'est que, et tu l'as un peu mentionné brièvement, ça fait du bien. Ça, c'est sûr, je crois que dans une dans la cinématographie québécoise, un film comme ça, il a tout à fait sa place au FNC. Je pense que c'est vraiment, il n'y a pas de meilleur match pour un film comme Désert, là, vraiment, la crowd du FNC, définitivement. Mm. C'est un film qui fait du bien, et c'est un film que je me verrais probablement revisiter. Et à tout le moins, c'est un film qui va m'abonner à ces deux cinéastes-là. Dans le sens, j'ai hâte de voir c'est quoi le prochain move de Charles Décodeur, de Yann Manuel Hernandez. Donc, ne serait-ce que pour ça, là, vraiment un gros, gros, gros chapeau. Ouais.
Et le piège aussi d'une espèce de travail formel comme ça, c'est toujours que, comme la grosse majorité du film est vraiment impressionnante au niveau visuel et sonore, lorsque tu as un passage à vide, il détonne d'autant plus.
Ouais.
Je pense notamment, il y a une scène dans une salle de bain où le personnage va comme prendre une douche, se raser, tout ça. T'sais, cette scène-là, je trouvais qu'elle était longue longtemps, puis qu'elle n'était pas aussi soutenue au niveau visuel ou sonore. Donc, c'est ça, c'est un peu le piège de ce genre de proposition. C'est quand tu as une scène qui n'est pas nécessairement, tu sais, ni importante narrativement, parce que comme un personnage qui se rase puis qui prend une douche, c'est comme assez... Il y a une symbolique, là, de se nettoyer puis ça, mais je veux dire, tu sais, c'est assez, finalement, convenu. Mm-hmm. Lorsque cette scène-là n'est pas, tu sais, excitante au niveau formel, ben c'est ça, c'est que ça détonne avec le reste.
Exactement.
Mais malgré tout, moi, je trouve que c'est vraiment ça, les films québécois les plus fascinants de l'année. Puis si ça vous intéresse, ce genre de film, comme on mentionne depuis tantôt, des films d'avant-garde, tout ça, mettez ça à votre agenda. Moi, c'est dommage mais que ce modèle-là n'existe plus de nos jours, mais c'est le genre de film justement que je mettrais un samedi à minuit, une fois par semaine dans un cinéma.
Ouais.
Ce serait comme le rendez-vous un peu de « Ah oui, t'as-tu vu Désert? Ça joue une fois par semaine. » C'est un peu comme, tu sais, au cinéma de l'art, ils présentent The Room à chaque mois depuis je sais pas combien d'années. Là. Ouais. Non, mais pas que je trouve que The Room, c'est du même niveau, mais ce genre de rendez-vous-là, c'est le genre de truc qui manque souvent, je trouve, de nos jours. C'est que on a les sorties, là, OK, ça sort sur tous les écrans de tous les cinémas pendant un mois, puis après ça, c'est plus disponible. Mais ce genre de film-là gagnerait, selon moi, à devenir un espèce de petit truc un peu, tu sais, un peu underground, un petit peu le genre de film que tu parles, mais que t'es pas trop sûr. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas toutes les œuvres qui devraient avoir le même traitement. Comme certains albums de musique, là, tu sais, c'est pas des gros vendeurs, mais, tu sais, mettons, c'est un album culte que tu vas parler, puis, ah oui, tu te rappelles tout tel album, puis, tu sais, comme, mettons, un exemple, là, récemment, c'était dans l'actualité que... Il y avait Pinkerton qui vient finalement de franchir le million d'exemplaires, tu sais. Mais tu sais, un million d'exemplaires, c'est pas tant que ça pour un album qui a été aussi célébré, puis qu'il y a eu autant de critiques élogieuses. Donc pour moi, Désert, c'est un peu ce genre d'objet-là, tu sais, qui mérite pas, ben, pas qu'il mérite pas, mais qui ne gagnerait pas à avoir une sortie, tu sais, dans toutes les Guzzo puis toutes les Cinépex en même temps, mais que d'être cette espèce d'objet culte un peu sur un petit écran que tu vas voir, tu sais, puis t'es pas trop sûr c'est quoi, puis t'embarques, puis c'est un super bon trip. Là.
Non, absolument. Puis un film qui gagne, tu sais, j'ai l'impression à être vu sur grand écran, puis justement dans un espèce d'état semi-éveillé, semi-endormi, comme tu dis, une genre de projection de minuit, tu sais, sur la durée, parce que, et de toute façon, c'est pas possible qu'un film comme ça puisse sortir dans les Guzzo de ce monde, parce qu'il y a juste pas le... Tristement, mais il y a juste pas le public pour ça. Donc, donc effectivement, quelque chose d'un peu alternatif à la... Tu sais, finalement, en accordance, en concordance avec avec l'esprit du film, tu sais, l'esprit très avant-garde, là, au jeu. Fait que... Ouais, mais non, mais c'est ça. Donc, ça... Moi, ce serait ça, mon tour du désert.
Super. Donc, le FNC, c'est du 5 au 16 octobre. Évidemment, on va vous en parler plus en détail. Suivez notre page pour voir nos critiques. Sinon, vite fait, les gars, je voulais parler d'un film que j'ai vu récemment, que pour moi, c'est vraiment un gros morceau, puis j'aimerais ça qu'on l'aborde vite fait.
Oh my God!
Je sais pas si vous l'avez vu, mais vous en avez sûrement entendu parler. C'est sorti en 2000, c'est Eureka de Shinji Aoyama.
Oui, 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 dans le bus, puis le gunman dans l'autobus et tout, là.
Ouais.
Oh, oui, ben oui.
Tu l'as vu, ça, Pascal?
Oui, je l'ai vu. Mais je pourrais pas m'en rappeler super.
Moi, j'ai pas vu Old Boy.
Ouais. Dumb fuck.
Non, c'est ça. Fait que Eureka, on oublie ça, Rémi.
Ouais.
Mais. Non, mais plus sérieusement, Derp. C'est ça. Moi, c'est donc.
Derp.
Moi, c'est tout frais à ma mémoire, là. Donc.
Ouais.
Puis en gros, c'est ça, c'est vraiment un film de. C'est un film de 3h30 déjà. Là, donc, tu sais, Pascal, je te donne la durée là, parce que je sais que c'est ton premier critère.
Non.
OK. Un film de 3h30 au rythme très très lent et au ton sepia.
Ouais.
Donc, il y a vraiment comme
un peu.
C'est ça, un espèce de petit sepia qui donne vraiment une ambiance au film particulière. Et c'est un film, c'est ça, c'est dans les 10 premières minutes, là, c'est comme la scène d'ouverture, il n'y a aucun punch, là, mais c'est un tueur dans un bus qui prend en otage un bus, qui va tuer quelques personnes, et rapidement il sera immobilisé, il va être abattu par la police, par un sniper. Et sauf que là, il y a quelques survivants dans le bus, y compris le chauffeur et deux jeunes enfants. Et tout le reste du film, dans le fond, ça va être sur comment eux vont vivre avec ça dans les années à venir. Éventuellement, le chauffeur de bus, lui, évidemment, il lâche son emploi puis il veut plus comme être chauffeur de bus. Il va travailler dans une usine. Une mine. Et il va éventuellement aller rejoindre les enfants qui, eux, dans le fond, ont plus de parents. Et ils vivent dans une maison, tu sais, c'est des adolescents. Puis là, ils vivent un peu avec l'héritage qu'ils ont eu, mais sans vraiment comme connaître la vie. Puis là, leur maison est vraiment pas entretenue. Et puis, il va aller vivre avec eux, puis il leur propose éventuellement de... ils achètent une espèce de petite roulotte, puis on va aller faire un tour pour se rencontrer. Puis je trouvais un peu que les deux films, il y avait des échos justement sur l'espèce de voyage initiatique pour un peu essayer de se retrouver. Mais Eureka, vraiment, là, c'est une espèce de pièce maîtresse. Puis c'est un film qui est lourd, évidemment, mais pourtant qui ne... La lourdeur de son sujet ne va pas non plus stopper le spectateur, parce qu'il y a une certaine quand même humanité puis une légèreté dans la façon que ces personnages qui ont été brisés vont un peu se serrer les coudes puis être ensemble. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, si vous avez la chance de tomber là-dessus, c'est un film, je pense, qui avait eu un prix à Cannes, je crois, en 2000 ou 2001. Et donc, ce film-là, le cinéaste, c'est drôle parce qu'il est extrêmement prolifique, Shinji Aoyama, mais il a comme pas vraiment fait d'autres films qui ont eu autant d'impact. C'est vraiment comme le film qui a été connu et qui a été comme distribué un peu partout dans le monde. Mais j'ai regardé sa filmographie plus tôt, puis il a fait comme une vingtaine de films, puis il n'y en a aucun autre vraiment qui me disait de quoi. Donc, c'est un peu étrange qu'il n'ait pas réussi à faire un autre film qui a eu autant d'impact. Mais celui-là, même après toutes ces années, ça vaut vraiment la peine. C'est un film coup de poing, puis qui en dit beaucoup sur les traumatismes.
Ouais, tu sais, je sais que ça n'a pas vraiment rapport, mais comment des films comme Yi-Yi, par exemple, de Edward Yang, ou un certain cinéma avec des longs films, des gros films, des films patients, des films qui traitent de l'humain, des côtés sombres de l'humain, mais tout en observation. Tu sais, un peu propre à une certaine forme de cinéma asiatique, j'oserais dire. Qui est quand même assez donc traditionnel pour peut-être ce genre de cinéma-là. Puis c'est vrai que c'est drôle, en fait, de tous les films que tu aurais pu sortir, que tu sortes Eureka, parce que c'est pas non plus le film qui est sur les canons. Il est pas tant que ça sur les palmarès des grands, grands films des années 2000, où il l'est, mais de façon plus pointue, tu sais, sur quelques critiques vont vraiment l'avoir encensé, ça va les avoir marqués, mais... c'est pas un film non plus du canon. Fait qu'en tout cas, je trouve juste ça curieux que de tout le cinéma mondial, ouais, t'aurais pu sortir, sorte Eureka aujourd'hui. Mais cool en même temps, tu sais, c'est...
Non, puis je pense que le film mérite justement à être connu, tu sais, puis...
Ouais, ben c'est ça.
Ouais. Donc voilà, ça va pas mal conclure notre épisode cette semaine.
Rémi, t'as-tu vu de quoi de pertinent, hein, mon Rémi?
Je regarde pas tant de films ces temps-ci. J'ai vu Pigeon Satana Branch, que j'avais pas vu encore. J'étais comme vraiment dû là, pour le voir, mais c'est que là, il y a le Cabaret Kino là, qui s'en vient. Puis je vais faire un film en fait en vignette, en shot de 1 à 2 minutes chaque fixe.
Ah ouais, okay.
J'ai vraiment pas le temps de faire un film, fait que je fais un film super simple en post-prod, puis j'ai décidé de me taper ça. Là. Donc ça va être plus le
mais les setups. Parle-nous donc là, du Cabaret Kino.
Ça arrive là, en fait, c'est l'épisode va être sorti, que ça va être déjà enclenché.
Ouais. Mais c'est quoi les dates?
Dans le fond, ça dure 10 jours là, pendant le FNC, puis il va y avoir les 4 projections, comme d'habitude, 2 projections dans l'agora du FNC, où il y a les projections habituellement, puis c'est au cœur des sciences de l'UQAM, il me semble que ça s'appelle comme ça.
Ouais,
puis 2 projections dans le Kinolab, au 3e étage, donc c'est le... l'ancienne école des beaux-arts qui est au coin Saint-Urbain et Sherbrooke. Ça va être au troisième étage, là, il y a des immenses salles, puis il va y avoir deux projections qui vont être là. Puis cette année, en fait, on a emprunté les thématiques du FNC, qui, en fait, c'est les 100 ans du dadaïsme. Puis il y a des thématiques empruntées à ça pour le Kino Cabaret. C'est entre autres une thématique sur la sexualité. Là, moi, ma thématique, c'est sur l'art contestataire. Puis c'est ça, là, dans le fond, on donne des contraintes aussi de dernière minute. Donc les réalisateurs vont devoir piger dans des paniers une contrainte qui va s'ajouter, mais vraiment last minute pour pimenter un peu le tournage et le film qu'ils ont à faire. Parce que 72 heures, c'est pas une contrainte suffisante pour pour refaire un film, là. Fait que c'est ça, puis là, ben, ça s'en vient là, puis en prévision, j'ai regardé Pigeons at a Branch, Reflecting on Existence, de Roy Anderson, puis waouh, ouais, c'est comme, c'est un cinéma tellement unique, là, mais c'est comme, c'est spécial parce que ces trois films, j'aurais de la misère à les différencier, tu sais, j'ai peut-être plus vu, Songs of the Second Floor, j'ai peut-être vu trois fois, le deuxième, je l'ai vu, oui, The Living, je l'ai vu une fois, mais c'est comme, c'est sûr que dans 6 mois, mettons, celui que je viens de voir, il y a des scènes qui vont se mêler un peu dans les autres, parce que c'est pas des tout narratifs, là, c'est comme des tableaux, puis il y a plein d'images hyper marquantes, c'est quasiment la philosophie Harmony Korine, hein, c'est les moments forts qui construisent un film, là.
Moi, ce qui m'a aidé à les différencier, c'est Songs on the Second Floor, tu sais, ça parle, mettons, des gens, je sais pas, mettons, grosso modo, là, je veux dire, c'est pas, encore là, c'est pas coulé dans le béton, ce que je dis là, mais moi, ce qui m'a aidé à les différencier, c'est, pour moi, Songs on the Second Floor, c'est, tu parles des gens peut-être de 40-50 ans, en crise, You the Living, c'est peut-être plus sur les jeunes, un peu plus à propos des jeunes, puis pour moi, Pigeons at a Branch, c'est vraiment la vieillesse, la mort. Je pense que de façon lousse, puis encore là, c'est pas dogmatique parce que, je veux dire, dans You the Living, il y a des vieux, tu sais ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a un focus particulier dans nous, les vivants, là, justement, comme un peu plus sur la jeunesse, et dans Pigeons at a Branch, un peu plus sur la vieillesse. Après, je veux dire, effectivement, qu'à partir de là, le reste se mélange et se confond. Là.
C'est peut-être le hic, pour moi, dans sa filmographie, mais comme... pas vraiment un hic, là. C'est comme genre les films sont tellement beaux, là, c'est tellement magnifique à regarder, puis c'est drôle, là. Moi ça me fait rire, c'est un humour bien particulier, là. Je regardais avec ma copine puis elle riait pas du tout, là, mais moi c'est comme God, quelque chose qui me fait genre vraiment mourir de rire, là. C'est les situations absurdes, c'est comme des espèces de malaise puis des...
Non mais ouais. C'est un exemple dans Pigeons at a Branch, c'est au tout début, je pense que c'est un des premiers tableaux, la personne meurt, elle vient d'acheter, je pense, de la bouffe, là.
Elle meurt,
elle fait un infarctus juste là. Puis après ça, c'est comme, bon, ben, qui veut
sa bouffe, là?
Puis le hamburger,
puis là, comme sa bière, puis là, comme,
il y en a un qui s'avance, tu sais, pour payer la bouffe.
C'est genre, il a payé pour, on les remettra pas dans le comptoir, là, parce qu'il a déjà payé pour, fait que, il y a juste quelqu'un qui veut, puis on veut pas faire payer deux fois pour ça. Puis là, il y a un vieux monsieur qui se lève, fait, moi, je vais prendre sa bière, puis là, c'est tellement absurde.
C'est parfait.
Puis il y a toujours ces espèces de shots iconiques, là, qui sont, quasiment impossible à tourner, là. Tu sais, là, il y a la scène dans celui-là avec les militaires, l'armée, genre de style Napoléon, là. C'est comme ils sont dans un bar, puis là, les femmes se font chasser du bar, puis t'as un mec qui débarque sur un cheval, là, qui s'en va à guerre, qui se met, genre, qui essaie d'embarquer un jeune dans son armée en le séduisant. Puis en arrière, t'as les militaires qui passent. Tu vois juste comme... Tu vois un coin barade, de la fenêtre.
Ouais,
mais par le coin de la fenêtre, t'as comme... Tu dois avoir 200 figurants qui passent... qui font juste passer devant le bar. Puis genre, back à back. C'est tellement impressionnant. Puis c'est tellement... La façon qu'ils placent ça, c'est hyper complexe. Mais en même temps, c'est comme... Il met pas... C'est pas comme... Hey, regardez, j'ai full de figurants. C'est en background, genre, il va mettre ses figurants. Puis c'est tellement... C'est tellement génial la façon qu'il fait ça. Puis dans le premier, dans Songs of the Second Floor, il y a la scène d'embouteillage aussi. C'est un bar qui est vide avec un mec qui boit sa bière au bar. Mais à l'extérieur, tu vois un méga embouteillage avec une espèce de cérémonie religieuse, une parade religieuse qui passe, qui bloque la circulation. Puis c'est full figurant, full voiture, mais c'est à l'extérieur du bar. Puis c'est ça qui te fait comprendre la situation à l'intérieur du bar. Mais c'est pas genre... L'enfance n'est pas mis là-dessus, t'es pas dans le trafic, t'es juste à l'intérieur du bar où il y a rien qui se passe dans le fond, là. C'est super impressionnant, là, mais bon, je pense que si vous connaissez pas cinéaste-là, c'est comme tellement quelque chose à découvrir. Puis même, juste aller voir, il a tourné beaucoup de publicités, là, puis ses publicités sont déjà très fascinantes, puis ça donne un bon aperçu de son style, là. Il y en a beaucoup sur YouTube. Puis il tourne de la même façon. C'est des longs plans avec des comédiens qui ont comme la peau blanchie. Aussi toute la direction artistique est vraiment parfaite, là. Tout est placé au bon endroit. C'est très cinématographique et photographique,
ouais.
Là.
Edward Hopper, un peu, là, tu sais, en peinture, là, peut-être. T'sais, ouais, c'est ça. Il y a vraiment des influences picturales qui sont assez frappante, mais ouais.
Chaque frame s'encadre sur le mur, là. Toutes les images sont trop belles, là. Mais j'ai vu ça récemment.
Yeah.
Je vois pas beaucoup de films, mais j'ai vu ça.
Bon. Ouais. Ben, c'est un gros morceau.
C'est un gros morceau quand même. Mais Pascal en avait parlé il y a un bout, puis j'ai jamais eu la chance de le voir, mais là. Ouais. Peut-être qu'à Mané, j'aurai Old Boy, là. Troisième référence dans le même podcast.
On devrait te kidnapper, te faire comme dans Orange, mais dans Clockwork Orange, tu sais, puis juste mettre Old Boy. À Mané, genre, Paul pis moi, là, on va faire ça. On va juste comme te kidnapper.
Si vous écoutez le podcast, vous prenez un shot, c'est le jeu de point de vue, là.
Ou alors, tu sais, on conservera ta critique pour comme le dernier épisode de Point de vue, le jour où on voudra mettre la clé dans la porte. Là.
C'est ça. C'est
comme le dernier épisode.
Spécial Old Boy.
Ça, ouais.
Genre, je le préenregistre, puis après ma mort, vous le passez.
On le met dans une capsule temporelle. Là. Ouais, c'est ça, c'est bon, ça. Ah, trop de bonnes idées.
Cool, donc c'était notre Point de vue cette semaine. On va se quitter sur la bande-annonce du film Un ours et deux amants de Kevin Will.
Ah ouais, cool.
Mon nom est Paul Andréau, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante qui a vu Old Boy.
Unbelievable. Unbelievable. You suck. Oh. I didn't believe you for a second. Every day I spend with you, you save me from myself.
Everywhere I go, he was there today.
Lucy!
I know who you are, woman. You're me when I was your age. Everyone's got issues with their past.
People around you will die!
There's a blizzard coming.
And it will be your fault!
Lucy! Take me away.
It's just me and you.
You live your life and you're not afraid to die. You cross the river, and you live free and proud because you crossed the river even if you were scared.
I've loved you from the